Bon, bonjour à tous et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, encore une fois. C'est un plaisir d'être avec vous, j'espère, ce matin. Il ne va pas faire si chaud comme c'était la dernière fois quand j'étais ici. J'ai vraiment, vraiment transpiré. Et aujourd'hui, on a même acheté un petit ventilateur, mais je l'ai oublié à la maison. Mais oui, ça va, pour le moment. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez eu un bon 14 juillet. À Cannes, il avait rien à cause du vent. On n'a pas eu de feu d'artifice ni rien. Mais de toute façon, la fête, c'était hier. Mais le dimanche, c'est beaucoup plus important que le 14 juillet, je pense. C'est le jour où on vient et on a la communion fraternelle avec des sœurs. On essaye de chanter les louanges, d'écouter la parole. Alors, si vous étiez content hier, aujourd'hui, ça va être beaucoup plus. Alors, il faut tout le monde sourire. On va compter à trois. Il y a un mois, presque, j'ai eu l'opportunité de partager avec vous un petit peu. Et on a parlé de la vraie repentance. Je vais vous demander, si vous n'étiez pas là la dernière fois, quand j'ai parlé de la vraie repentance, si vous n'étiez pas là, levez votre main, s'il vous plaît. OK, il y a quelques-uns. J'aimerais bien vous envoyer par mail, si vous voulez, une copie de ce message, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un petit peu la continuation de la première partie. Donc, si vous voulez, je peux prendre votre adresse mail, je vous envoie une copie, l'enregistrement. J'ai dit la dernière fois que pendant mes voyages, je voyage beaucoup avec un cours d'évangélisation, et j'ai vu qu'il y a un concept, il y a une idée, une doctrine que ce n'est pas bien compris dans beaucoup des églises, et ça, c'est la repentance. On a parlé de la vraie repentance la dernière fois, et j'ai expliqué que c'est quelque chose de très important, parce que sans repentance, il n'y a pas de salut. Le cadeau que Dieu nous donne, le cadeau de salut, si vous l'ouvrez, il y a deux choses dedans, il y a la repentance et la foi. Donc pour comprendre vraiment le salut, il faut comprendre ces deux idées, ces deux concepts qui sont dedans, la repentance et la foi. La dernière fois, mon message n'était pas complet parce que je parlais que de la repentance. Mais j'ai prié et Pierre, il est parti en voyage, encore une fois. Et donc j'ai l'opportunité de vous partager la deuxième partie. Et aujourd'hui, on va parler de cette deuxième partie qui s'appelle la foi ou la vraie foi. On a vu la dernière fois la vraie repentance et aujourd'hui je vais vous partager un petit peu de la vraie foi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on pense quand on entend le mot foi? Il faut avoir, il faut croire, il faut. C'est quoi la vraie foi? On ne va pas avoir le concept typique de foi, que c'est espérer quelque chose qu'on ne voit pas. Ça, c'est une partie de la foi, oui, mais on va voir vraiment bibliquement c'est quoi la vraie foi. La foi qui sauve, la foi qui est demandée en réponse de l'Évangile, et avec, ensemble avec la foi. Donc j'espère, j'ai confiance ce matin avec l'aide de Dieu que vous allez être encouragé, que vous allez apprendre un petit peu comme moi aussi j'ai appris quand j'ai préparé ce message. Mais avant de commencer, je vais juste faire une petite annonce. Après le culte, on va sortir, on va aller à la place Masséna. On va faire de l'évangélisation dans la rue. Si vous avez le temps, si vous n'avez jamais fait ça, je vous invite à nous joindre. Si vous avez l'expérience, venez quand même. Et si vous n'avez jamais vu ma femme, Maria, de faire la prédication en plein air, ça c'est votre opportunité. Ça va être une belle expérience. Et aussi on va enregistrer, on a un petit segment, un petit espace dans un programme de télé à l'Angleterre et aux États-Unis. Et on va faire aussi des petites vidéos pour cette émission de télé avec la prédication en plein air. Donc si vous avez l'opportunité, si vous voulez, si vous pouvez, venez aujourd'hui peut-être à 14h, 14h30 à la place Masséna. Vous allez voir une belle dame faire la prédication en plein air. C'est ma femme. On va commencer, on reprend le texte qu'on a vu la dernière fois, c'est Acte 20. Acte 20, versets 20 et 21. Acte chapitre 20, versets 20 et 21. c'est Paul qui donne son dernier message à l'église d'Éphèse. Il sait bien que c'est la dernière fois qu'il va être avec eux. Et il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai lu la version Louis II 1910, et Paul, il donne le dernier message. C'est comme la dernière fois qu'il va parler avec eux. Il essaie de donner un message que ça va être comme la signature, la dernière chose qu'il va donner à cette église. Et ils disent qu'il n'a jamais rien caché, qu'il a annoncé tout ce qu'il fallait. La repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Les 12 éléments dont on va parler ce matin. Bon, on a vu la repentance, aujourd'hui on va voir la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a prêché, enseigné à tous les hommes, les Juifs, les Grecs, la repentance et la foi. On va diviser cet enseignement, cet message ce matin dans trois parties. On va voir c'est quoi la foi, comme la définition de la foi, numéro un. Après on va voir c'est quoi la foi pour les croyantes. Et après on va voir c'est quoi la foi pour les non-croyantes. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois. Donc si vous avez les 12 enseignements, vous allez voir que c'est le même trois, et le même schéma, la même façon de voir les 2 concepts. On commence pour voir c'est quoi la foi. Le mot la foi, en acte 20-21, comme on a lu, il vient du grec piestes, qui vient de la racine peito. Et ces 2 paroles, ou ces 2 racines, ou ces 7 mots qui sont conjugués dans différentes formes, signifie être convaincu, être sûr de quelque chose qu'on ne voit pas même. Ça, c'est la définition que tout le monde comprend. C'est ça qu'on comprend comme foi. Oui, quelque chose qu'on n'a pas, mais on est sûr que ça va se passer. OK, ça c'est bien. Mais aussi, foi, piestes, peito, il vient avec l'idée de confiance, de faire confiance, de se confier à quelqu'un. Moi, j'ai confiance en ma femme, par exemple. Moi, je crois en elle, mais j'ai confiance en elle. Le mot foi, ça vient aussi avec cette idée de confiance. Je vais vous inviter à se rappeler de cette signification. Et ce matin, chaque fois que je veux dire foi, vous ne pensez pas à la foi de oui, on a la foi en Dieu. Non, foi comme confiance. On va avoir confiance en Dieu pour quelque chose, pour notre salut, pour notre futur, pour notre plan, etc. Donc chaque fois qu'on va dire foi, vous pensez à confiance. Et en fait, je vous invite à faire une expérience. À la maison, vous pouvez lire le chapitre 11 de Hébreux. C'est le chapitre de la foi, oui. Mais chaque fois que vous voyez le mot foi, vous pouvez le remplacer pour confiance, ou se confier. Et vous allez voir comme la signification de ce message, il est beaucoup plus c'est beaucoup plus puissante, si vous voulez. Par exemple, en Matthieu 27, 32, on a la crucifixion de Jésus. Et un petit peu plus bas, en verset 42, on a les pharisiens et les religieux qui disent: il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Verset 43, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. Vous avez vu ces 2 occasions? Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Exactement le même mot, la même racine. C'est utilisé de 2 façons différentes, mais ça vient avec cette idée de confiance. On peut croire en lui qu'il se confie en Dieu. Alors la foi, ça vient avec la confiance. Si on part de ça, on va commencer maintenant à voir la foi comme définition. Il est à la foi qui sauve, mais il est aussi une croyance, une foi qui peut nous tuer. Nous tous, on est nés avec un cœur qui est le roi de notre propre vie. Nous, on est tous nés avec notre cœur qui dit « Oui, moi, je veux mes propres plans. Et si je veux réussir, c'est à cause de moi. C'est parce que je suis le chef. C'est parce que j'ai mes propres désirs, mes propres plans. Je veux les faire parce que je suis puissante, je suis très intelligente, je suis… » etc. Notre cœur, normalement, c'est comme ça. C'est un cœur qui est ennemi de Dieu. C'est un cœur qu'il ne faut pas confiance à Dieu. Vous parlez avec les gens de la rue, et ils vont dire, oui, je vais réussir dans la vie parce que j'ai fait les études, ou parce que mon père est le ministre de je ne sais pas. Ça, c'est le cœur humain. Ça, c'est le cœur qui est l'ennemi, qui est contre Dieu. Et ça, c'est une croyance. Ça, c'est une foi qui tue. Parce qu'à la fin, on croit qu'il y a nous-mêmes. Si vous demandez les gens des autres religions aussi, ils vont vous dire, oui, je crois que je vais prier 5 fois par jour. Oui, je crois que je vais aller à Mecca. Ou je crois que mes propres bonnes actions vont m'amener au ciel. Ils font confiance en eux-mêmes, leurs propres actions. Ça, c'est une croyance, ça, c'est une foi qui tue à la fin. Ça, c'est une foi qui va le tuer. Quand on dit « moi, je suis le centre », notre cœur est comme ça. Mais en lieu de ça, une fois qu'on est né de nouveau, une fois que Dieu nous a changé le cœur, une fois que l'Esprit Saint il vient habiter en nous, c'est là que notre cœur il dit « ok, j'oublie tout ça, je veux le mettre de côté, derrière moi, et moi, je veux maintenant suivre tes plans, Dieu. Maintenant, je ne veux pas faire ma propre volonté. Je m'en fous de mon futur. Je veux ce que tu veux pour moi. » Ça, c'est la foi qui sauve. Dans cette explication que je viens de vous dire, si vous voyez, il y a une idée de confiance. Je vais te faire confiance, Dieu, pour mes plans. Si vous êtes célibataire, vous pouvez dire, je vais te faire confiance pour mon futur mari ou ma future femme. C'est une confiance. Vous êtes dans l'école, je veux te faire confiance, Dieu, que malgré mes études ou pas, tu as des plans pour moi, que tu as un lieu pour nous dans le ministère, par exemple, je ne sais pas. On a confiance en Dieu. Alors on laisse de côté, on jette tout ce qui était notre propre volonté. On va nous soumettre à sa volonté. Et alors ça, c'est... Si la vraie foi... ça vient avec ce type de confiance, 100% de confiance en lui, on peut dire que, par définition, si on va faire confiance à Dieu, on va jeter notre propre plan, ou notre propre volonté. Et ça est là que la repentance vient avec la foi. Je veux dire, ok, je veux maintenant te suivre, Dieu, j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi, je vais laisser tomber toutes les bêtises que j'ai eues avant, que j'ai faites avant. Je ne vais plus faire ce type de péché ou cette autre chose que je faisais avant parce que maintenant, je vais te suivre. Je vais te faire confiance 100%. Ça, c'est l'idée de la vraie foi qui vient aussi avec la repentance. Par exemple, j'habitais au Canada, mais maintenant, j'habite en France. C'est-à-dire que pour habiter en France, je dois quitter le Canada. Vous voulez faire confiance en Dieu 100%? Alors, il faut quitter la vieille nature. Il faut quitter le péché. Et c'est quitter le péché ou c'est laisser le Canada, c'est la repentance. La repentance vient avec la vraie foi vient avec la repentance. Charles Spurgeon, le prince prédicateur, il a dit que la foi et la repentance, c'est comme des jumeaux. On ne peut pas vraiment dire c'est qui vient avant. On ne peut pas dire c'est quoi qui se passe d'abord. Il a dit que pour certaines personnes, c'est la repentance qui vient et après vient la foi. Pour les autres, il y a la foi qui vient et après vient la repentance. Spurgeon, il a dit que c'est un mystère, qu'on ne peut pas savoir certainement c'est quoi qui vient, première. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on doit savoir, c'est que les deux, ils sont des cadeaux de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la repentance et c'est Dieu qui nous donne la foi aussi. 2 Timothée 2:24. Je vais vous lire. 2 Timothée 2, 24 et 25. Un serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Que Dieu leur donnera la repentance. C'est Dieu qui donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est Dieu qui nous donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ensuite, Philippiens 1, 29. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est Dieu qui nous donne la grâce de croire et de souffrir. C'est un cadeau de Dieu. En Hébreux 12, 12, peut-être vous rappelez, vous pouvez se rappeler qu'ils disent que Jésus, c'est le chef et le consommateur de la foi. Jésus, c'est le chef et le consommateur de la foi. C'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui nous donne les cadeaux de la foi, les cadeaux de la repentance. Ensemble, c'est les cadeaux de salut. On va être sauvés avec ça. On a établi plus ou moins c'est quoi la foi. La signification de la foi, c'est un cadeau, ça vient de Dieu. Ça vient avec l'idée de confiance. Ça vient avec la repentance. Maintenant, on va voir c'est quoi la foi pour les croyantes. Pour nous tous ici, qui on a un nouveau cœur déjà. On n'est plus ennemi de Dieu. On veut le plan de Dieu. On veut le suivre. On veut faire sa volonté. Alors, comme on a dit avec la repentance, la foi peut agrandir. La repentance et la foi, ce n'est pas une chose qu'on a fait une fois et c'est fini. Non, on l'a fait une fois, mais maintenant on peut agrandir, persévérer. Il y a une croissance dans notre repentance et dans notre foi. Nous tous, en 2 Thessaloniciens 1-3, 2 Thessaloniciens 1-3, nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frère, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns les autres ne cesse d'augmenter. Là, on a la foi qui est en train d'agrandir, ainsi que l'amour de l'un à l'autre. La foi peut agrandir. Si on est sûr de ça, si vous comprenez que votre foi, votre confiance en Dieu peut être beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Alors ça va nous donner 2 effets. Le premier effet, c'est la prière. Parce que maintenant, on peut prier pour la foi. Dieu, aide-nous à te faire plus de confiance. Dieu, aide-nous à agrandir, augmenter notre confiance en toi, c'est-à-dire notre foi en toi. On peut prier pour ça. Le passage en Luc 22, 31, Jésus, il dit à Pierre, pas Petrignani, l'autre, Jésus, il dit, Simon, Simon, faites attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. Ça, c'est une prière qu'on peut tous avoir. Dieu ne laisse pas que notre foi, que notre confiance en toi nous manque. Augmente-la, aide-nous à la faire grandir. Dieu, il ne nous donne pas seulement la foi, mais aussi il la soutient. On peut prier pour la foi qu'il nous a donnée pour l'agrandir et pour la soutenir. Vous vous souvenez de l'histoire de cet enfant avec un mauvais esprit en Marc 9, 14 et en verset 24. Le Père vient à Jésus et il dit « Je crois, mais viens en secours de mon incrédulité. Je crois, mais quand même aide-moi. » Bien en sécurité de ma incrédulité. Et je pense que moi je suis là. Moi je crois. Moi je fais confiance en Dieu. Je voulais faire confiance de notre futur, notre ministère, nos enfants, notre petite affaire, notre etc., etc. Mais quand même, Dieu, aide-moi à te faire plus de confiance, aide-moi dans mon incrédulité. En Luc 17, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Je vous invite à prier comme ça, prier pour votre propre foi. Augmente-nous la foi, ne laisse pas que notre foi, notre confiance en toi nous manque. On veut te faire plus de confiance. Alors la vraie foi, il vient... Bon, si on comprend la vraie foi, ça va changer notre vie de prière. Mais aussi, on va avoir plus d'amour pour lui. Parce qu'il n'a pas seulement nous donné le cadeau de salut, de la foi et la repentance, mais aussi il nous aide à le soutenir. Est-ce que vous aimez vraiment un Dieu? Vous aimez vraiment Dieu? Ça, c'est le deuxième effet de comprendre vraiment la foi pour les chrétiens. La première, c'est la prière, mais le deuxième, c'est le vrai amour. Est-ce que vous aimez vraiment un Dieu? Vous l'aimez sur toutes les autres choses? C'est la priorité dans votre vie. Pendant mes voyages, j'ai visité des églises très, vraiment très charismatiques. Et dès le moment que j'étais devant l'église, tout le monde est comme « Ouais !» Ouais. Ouais. Et j'ai dit « Vous aimez le Seigneur ce matin ?» Et tout le monde « Ouais !» Vous aimez vraiment le Seigneur ce matin ?« Ouais !» Ok. Et après, je pose une question. Levez votre main si vous lisez la Bible chaque jour. Chaque jour. Et il est où la fête? C'est fini la fête. Est-ce que vous lisez la Bible chaque 2 jours? Et il y a quelques mains qui se lèvent. Si vous lisez la Bible chaque 2 jours, c'est comme si vous passez 6 mois par an sans lire la Bible. Combien de fois vous le donnez à manger à votre petit estomac? 3 fois par jour. Combien de fois vous le donnez à manger à votre esprit? Il est où le vrai amour? Si Dieu nous a donné la Bible comme la lettre d'amour, comme le manuel, comme les instructions, comme le testament pour nous, est-ce que vous le lisez chaque jour, sans arrêt? On doit le faire. Ça, c'est une preuve de vrai amour. Si vous lisez la Bible chaque 3 jours, ou chaque semaine, une fois par semaine, juste à l'église, c'est comme si vous la lisez 52 fois à l'année. Imaginez ça. Imaginez si vous passez, si vous mangez juste 52 jours par an. Qu'est-ce que va faire, ça va se passer avec votre estomac? Alors, il faut nourrir vraiment notre esprit. Ça, c'est le vrai amour. Est-ce qu'on est obéissante aux commandements de Dieu? Est-ce qu'on laisse de petits péchés s'infiltrer, se mettre dans notre vie? De petits péchés dans notre tête, dans notre pensée, dans nos yeux. Est-ce qu'on permet ce type de choses? D'ailleurs, les petits péchés n'existent pas. C'est des péchés. Mais est-ce qu'on a une envie pour parler aux autres de l'Évangile? Est-ce qu'on a une envie pour avoir une communion fraternelle? Ça, c'est le vrai amour. Alors, si vous n'avez pas cette caractéristique dont je viens de parler, et aussi la lecture quotidienne de votre Bible, alors vous devez prier comme moi, comme le monsieur dans Marc 9, 14. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Aide-nous à avoir plus de confiance en toi, avoir plus d'amour pour toi, te connaître beaucoup plus, te faire plus de confiance. Et toutes les autres choses, ils vont changer. Ça, c'était pour les croyantes. Maintenant, la foi pour les pas croyantes. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas un chrétien, ça, c'est pour vous. Et même pour les croyantes, ça, c'est quelque chose que vous pouvez apporter dans votre vie pour les gens autour de vous. La foi, c'est un instrument pour être sauvé. La foi, croire en Dieu, ce n'est pas le salut. C'est juste un instrument pour le salut. Ok? Si vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus, vous avez quelqu'un dans votre famille, un ami qui croit en Jésus, ça c'est bien, mais c'est pas le salut. Le salut, il vient par la grâce. Par la grâce en Christ seulement, à travers de la foi. Alors le salut, c'est un cadeau, c'est la grâce qui vient par la foi. Mais croire en Jésus, ce n'est pas suffisant. Parce que comme on a vu tout ce matin, la foi, la vraie foi, c'est faire confiance en quelqu'un. Moi, je crois que Barack Obama, il existe. Je l'ai vu dans la télé, je pense qu'il existe, je crois qu'il est quelque part. Mais peut-être que je n'ai pas confiance en lui. Je ne crois pas en lui. Je crois qu'il existe, mais je ne crois pas en lui. Je sais que M. Hollande, il existe, mais je ne crois pas en lui. Ok? Ça, c'est comme avec Dieu. Vous croyez qu'il est là? Ça, c'est bien, mais ce n'est pas le salut. Il faut le faire confiance. Il faut le donner votre vie. L'importance, le plus important, c'est l'objet de notre foi. Ce n'est pas la foi comme telle, c'est l'objet de notre foi. Et ça, c'est Jésus-Christ. Charles Spurgeon, il a dit que la foi, il nous sauve de la même manière que la bouche vous sauve quand vous êtes en famine. C'est-à-dire, la bouche, il ne vous sauve pas. La bouche, c'est juste le moyen pour le pain qu'il va satisfaire votre famine. C'est ça. La foi, c'est comme la bouche. Il ne va pas vous sauver, mais c'est le moyen pour la grâce de Dieu, le sacrifice de Jésus d'arriver dans votre vie. C'est le pain qui va satisfaire la famine à la fin. Et c'est Jésus qui va satisfaire la colère de Dieu qui va vous sauver à la fin. Et si vous voulez le comprendre dans une terminologie très simple, si vous êtes dans un avion et vous savez qu'il est un parachute, la simple croyance qu'il y a un parachute devant vous, il ne va pas vous sauver. Il faut sauter de l'avion. Et vous dites, oui, je crois. Non. Vraiment, pour être sauvé, il faut se mettre le parachute. Il faut croire qu'il est là, et alors maintenant, je vais le mettre en moi. Ça, c'est la vraie foi. Pour les non-croyants, si vous voulez l'expliquer, utilisez l'exemple du parachute. Le parachute, la vraie foi, c'est ça. Je vais embrasser Jésus, je vais lui donner ma vie, je sais que je vais sauter de l'avion, mais il va me sauver. Je sais qu'il a des plans pour moi, pour maintenant et pour l'éternité. Et avec le parachute, c'est comme ça. La simple croyance, ce n'est pas suffisamment. Il faut l'embrasser, il faut se mettre le parachute. Finalement, pour les non-croyants, la repentance toute seule, elle ne va pas vous sauver. C'est pour ça, d'abord, et la foi toute seule, elle ne va pas vous sauver. C'est pour ça, Paul, en acte 20, comme on a vu au début, ils disent qu'il faut la repentance envers Dieu et la croyance à notre Jésus, à notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance envers Dieu, parce que c'est Dieu la partie qui est offensée, qui est en colère à cause de notre péché. C'est avec lui qu'on doit dire, je suis désolé, je me repens. Et c'est la foi en Jésus qui va satisfaire la colère de cet juge. C'est la repentance envers Dieu, parce que c'est contre lui qu'on pêche. Les gens du monde, ils pensent que chaque fois qu'ils pêchent, chaque fois qu'ils font quelque chose de mauvais, ils pêchent contre un autre être humain. Ça, c'est vrai. Ils pensent qu'ils pêchent contre la mère nature, ou la mère terre, ou Ça, c'est vrai. Mais en vérité, la conséquence ou la offense, c'est contre Dieu. C'est Dieu qui nous juge et c'est avec Dieu qu'on doit satisfaire la colère. On va avoir la repentance envers lui et la confiance, la foi à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est seulement lui qui peut satisfaire la justice de Dieu. Alors, on a vu les trois parties. Je vais juste le résumer, le faire en bref. On a vu que la foi, c'est plutôt confiance. Si on comprend ça, les croyantes, on a vu que la foi peut progresser. Et alors que nous, on peut demander à Dieu, on peut prier pour avoir beaucoup plus de foi, beaucoup plus de confiance. Que la foi, ça va, cette vraie foi, ça va traduire en prière et en vrai amour entre, vers Dieu. Et cette vraie amour, ça vient avec la obéissance et plus de confiance en lui. Numéro 2, on a vu pour le non-croyant que la foi, c'est juste les moyens pour lesquels le salut peut arriver, que la destination, c'est plutôt Jésus, que c'est lui l'objet de notre foi, que seulement la foi toute seule, ou seulement la croyance toute seule, ou la repentance toute seule, elle ne va pas vous sauver. Il faut avoir les deux, la repentance et la foi, la vraie repentance et la vraie foi en Jésus. Et maintenant, je vais finir avec ça. Je vous pose une question. Comment un non-croyant peut croire? Comment est-ce que quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un de la rue ou votre ami, votre collègue, comment est-ce qu'il peut croire? La Bible nous dit ça. La Bible a la réponse en Romains 10, 17. Vous voulez savoir comment est-ce que votre ami, votre meilleur ami, votre collègue, votre mari peut croire? La Bible dit, Romains 10, 14. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Ah, pardon, ça c'était le 14. Et le 17, ils disent, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous avez la réponse. Comment est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire croire quelqu'un? La foi vient de ce qu'on entend, la Bible dit. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais comment ils vont croire? Un petit peu plus haut, verset 14. Mais comment ils vont croire s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment est-ce qu'ils vont entendre si personne les annonce? Là, vous avez la réponse et vous avez une responsabilité aussi. Vous et moi, on a quelque chose qui est beaucoup plus précieux que tout l'or du monde. C'est l'Évangile. L'Évangile, il est beaucoup plus précieux que le remède pour le cancer ou la paix au Moyen-Orient. C'est l'Évangile beaucoup plus précieux. Parce que c'est avec l'Évangile, avec le message qu'on peut dire avec notre bouche, que les gens ils vont entendre. Et c'est avec cette entendre le message qu'ils peuvent croire. Dieu, il a choisi les choses folles comme la prédication pour sauver aux gens. C'est à vous et à moi de prendre ce message et le donner aux autres pour qu'ils puissent avoir la repentance et la foi à travers de l'écouter. En l'écoutant, Dieu peut le concéder, il peut le donner, la repentance et la foi. Alors c'est l'Évangile qui va produire la foi et la repentance et le salut. Et c'est l'Évangile tout seul qui peut changer le cœur d'une personne. Ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas une nouvelle politique, ce n'est pas une autre chose. C'est l'Évangile qui peut changer le cœur d'une personne. Et c'est l'Évangile qui peut changer aussi une nation entière, un pays, votre école, votre université, votre famille. C'est l'Évangile qui peut donner la repentance, la foi et le salut. Et avec ça, on va finir, on va prier. Merci Dieu pour ces temps ensemble. Je te demande, Dieu, de juste fortifier les vérités que j'ai parlées. Je te remercie pour tous les frères et sœurs qui sont venus ce matin. Et je veux te remercier pour notre foi, pour la foi que tu nous as donnée comme cadeau. Je te demande, Dieu, de la soutenir, de la faire plus forte, plus profonde. Ne laisse pas que notre foi nous manque, que notre confiance en toi devienne beaucoup plus intense, profonde. Et pour cet après-midi aussi, je te prie pour ce qu'on va faire à la rue, que on va proclamer l'Évangile qu'on va partager avec les autres. Je te prie pour la protection à nous et à nos enfants aussi, Sylvain et que chaque traité ou chaque conversation qu'on va avoir, il va faire une semence pour la vie éternelle. Je te demande de venir aussi, Pierre et Nancy, dans ce voyage, et qu'ils vont revenir bien réfléchis. Je prie la protection sur notre Église, Dieu, et pour ce privilège de partager ce matin, je te remercie. En témoin et en ton nom, merci. Amen.